Vous êtes sur RTL.
De ces audiences pour tout ce qu'on appelle les dossiers à délai, c'est-à-dire tous les dossiers qui posent des problèmes au regard de la liberté individuelle. Donc je parlerai plus de recentrage, compte tenu de la situation exceptionnelle, que des propos que vous avez repris.
Alors ce n'est pas exactement le regard que portent certains avocats qui ont signé une tribune hier dans le journal Libération et qui disent que la crise sanitaire a mis en lumière l'agonie du service public de la justice, ce collectif qui appelle à un plan de redressement. Est-ce que vous considérez-vous, Monsieur Molins, que la justice est un service public prioritaire aujourd'hui? Est-ce qu'il est traité comme tel?
J'allais dire d'abord, la justice n'est pas en agonie. La crise, par contre, est certainement marquée, comme l'a très bien dit il y a quelques jours la première présidente de la Cour de cassation, un certain nombre de failles technologiques qui montrent qu'on n'a pas encore réussi le grand virage de la justice numérique, ça c'est sûr. Mais après, moi je vais pas jusqu'à... Vous disiez effectivement, vous pouvez me répéter ce que vous avez indiqué sur les avocats?
Ils ont parlé de l'agonie du service public de la justice et ils ont appelé un plan de redressement.
Il n'y a pas d'agonie. Par contre, moi, enfin, c'est une opinion que je donne. Avec le recul, ça renvoie peut-être à la question qu'on peut se poser de savoir si, dans le cadre d'une crise sanitaire, est-ce que la justice ne devrait pas être une sorte de service prioritaire à qui on donnerait les moyens d'avoir un fonctionnement le plus proche possible de la normale et répondant bien évidemment aux normes de protection sanitaire de ses agents. Ça, c'est une question qui est posée.
Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? C'est de l'argent, c'est des moyens, c'est des ordinateurs pour travailler à domicile? C'est quoi?
Je pense c'est des organisations, c'est le fait que le virage du numérique et de la dématérialisation n'est pas terminé, que le télétravail a pu s'appliquer à à bon nombre de magistrats, mais que le volume, entre guillemets, des tuyaux informatiques n'a pas répondu au début, même si après ça a été réparé, au nombre de connexions nécessaires, le fait que tous les fonctionnaires n'étaient pas dotés de micro-ordinateurs, d'ordinateurs portables leur permettant de travailler à domicile. C'est cet ensemble de choses qui fait. Mais je crois là aussi que les expériences sont ce qu'elles sont et on s'enrichit à en tirer les leçons. Et je ne doute pas effectivement que le ministère saura tirer les conséquences de tout ça pour l'avenir en termes de fonctionnement de l'institution.
François Molins, des détentions provisoires ont pu être prolongées de 2 à 6 mois sans débat contradictoire devant le juge de la liberté. Or, c'est en application d'une ordonnance qui a été prise le 25 mars. Le très médiatique avocat pénaliste Éric Dupond-Moretti fait partie de ceux qui s'en sont beaucoup émus. Et vous, est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous dites qu'il n'y avait pas d'autre choix, il faut l'accepter, ces prolongations de détention provisoire?
J'ai une approche qui est plus nuancée. Je pense que dans des états des crises comme celles qu'on a connues, comme en matière terroriste, en matière sanitaire, quand on est dans un état d'urgence, en réalité, on est pris dans un dilemme. Personne n'a envie de voir le terrorisme ou le virus vaincre, mais personne n'a non plus envie de voir nos libertés mises en péril. Donc en réalité, l'état d'urgence, je pense qu'il était nécessaire, mais il est nécessaire et justifié et acceptable à partir du moment où il est temporaire et à partir du moment où il ne va imposer que des mesures strictement nécessaires et proportionnées.
C'est pas le cas là.
Si, justement, je pense que c'est le cas. Je pense qu'il fallait tirer les conséquences. Il y a un double mécanisme dans cet état d'urgence, c'est que l'état d'urgence, il a été prolongé, donc jusqu'au 10 juillet, mais le confinement est terminé. Moi, ce que je pense, et c'est d'ailleurs ce qu'on a dit au ministère lorsqu'on a été consulté avant le texte qui a été adopté ce matin, qui à mon sens va dans le bon sens, c'est qu'on a attiré l'attention sur le fait que les principes de proportionnalité et d'égalité nous paraissaient imposer de limiter les prolongations de plein droit de la période de confinement, et surtout de limiter les effets, au-delà de la fin du confinement, des prolongations de plein droit qui auraient déjà pris effet. C'est-à-dire que pour les prolongations qui seraient déjà intervenues de plein droit, la nécessité d'organiser des débats pour régulariser la situation. Et ça, je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a un grand principe constitutionnel et conventionnel qui est celui du recours au juge pour toutes les situations de détention, qui fait qu'il faut que ce soit un juge qui prenne la décision initiale et il faut qu'il y ait ensuite un contrôle ultérieur de la légalité et du bien fondé de la détention avec des contrôles qui doivent se faire à des intervalles.
Ça veut dire, pour qu'on comprenne bien, parce qu'on n'est pas tous des spécialistes du droit, vous dites, ok, il y a eu des prolongations de détention provisoire, mais maintenant que le pays se déconfine, il faut redonner donner la parole à un juge et un débat contradictoire pour voir si c'était légitime ou pas ?
Pour assurer le plus possible les principes d'égalité, de proportionnalité, pour ne pas se trouver dans des situations qui pourraient être choquantes au plan de l'application de ces principes conventionnels. Et puis je voudrais rappeler surtout que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a saisi d'un certain nombre de pourvois là-dessus. Il y a une audience qui va se tenir le 19 mai et c'est à la Chambre qui va appartenir de décider et de statuer, puisqu'elle va devoir apprécier dans le cadre de ses pourvois la conventionnalité du dispositif de l'ordonnance. Même si cette ordonnance a depuis été reprise par le projet de loi qui a été publié, par la loi qui a été publiée ce matin.
Est-ce que vous êtes parfaitement à l'aise, François Molins, avec cet état d'urgence sanitaire qui, on l'a dit, est donc prolongé jusqu'au 10 juillet ? Est-ce que vous dites aujourd'hui, peut-être que le 10 juillet c'est trop loin, peut-être qu'il faudra y revenir un peu plus tôt ?
Moi, je me situais moins par rapport en termes judiciaires, l'état d'urgence, une chose, je me situais surtout par rapport aux conséquences que devait avoir le confinement. Oui. Pourquoi est-ce que la justice et l'institution judiciaire et les tribunaux judiciaires ont fonctionné dans un mode, on va dire, dégradé et parcellaire qui leur a pas permis de remplir toutes leurs obligations? C'est d'abord en raison du confinement. Si on sort du confinement, on peut tout à fait, dans le cadre de l'état d'urgence, en appliquant effectivement les gestes barrières, le port du masque, etc., revenir à un fonctionnement qui soit le plus optimal possible. Et je crois que c'est dans ce sens, effectivement, que se déclinent aujourd'hui les efforts du ministère et les efforts de tous les chefs de juridiction. Mmh. Pas contradictoire pour moi.
Vous qui étiez...
Simplement, l'état d'urgence, il permet effectivement à l'autorité administrative, au pouvoir public, au Premier ministre, au ministre de la Santé, de prendre de façon plus rapide et plus efficace les mesures qui sont justifiées par la crise sanitaire, et tout ça sous le contrôle du Parlement. Mmh. C'est ça, je pense, les avantages de l'état d'urgence. Mmh.
Vous qui étiez en première ligne au moment où nous avons connu l'état d'urgence terroriste, quelle différence faites-vous entre ces deux états d'urgence, le terroriste qu'on a connu et le sanitaire dans lequel on est aujourd'hui ?
Mais déjà, je dirais qu'il n'affecte pas... C'est des phénomènes différents. Le terrorisme, est peut-être, il est aveugle, mais il était quand même plus visible. Le virus, lui, j'allais dire, est tout à fait invisible. Et puis tout ça fait que c'est pas tout à fait les mêmes libertés qui sont affectées. Sur l'état d'urgence terroriste, c'était essentiellement pour nous la faculté de se rassembler, d'organiser des grands événements. Hein, et puis une forme d'anxiété qui faisait suite à tout ce qui était arrivé. Là, on est véritablement dans une sorte de d'amenuisement de la vie sociale, puisque l'état d'urgence sanitaire, il affecte directement la liberté d'aller et venir. Mmh. Avec le confinement, la liberté de réunion et la liberté d'entreprendre. Donc c'est quelque chose qui finalement va beaucoup beaucoup plus loin que l'état d'urgence qu'on avait pu connaître.
Il est plus dur finalement.
Il est fait peut-être certainement beaucoup plus dur dans la vie quotidienne de nos concitoyens.
Mmh. François Molins, les plaintes se multiplient contre la gestion de cette crise sanitaire, notamment par le pouvoir politique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir combien de plaintes ont été déposées ?
Alors il y a exactement ce soir 63 plaintes qui ont été déposées, sur lesquelles je serai très prudent, je m'avancerai pas davantage, puisque il faut rappeler l'économie de la Cour de justice de la République. Hein. Vous avez à la base, à la Cour de justice de la République, une commission qui s'appelle une commission des requêtes, qui fait office de filtre et qui va devoir apprécier toute seule la suite à donner à ces 63 plaintes. C'est-à-dire qu'elle va décider à la suite de leur examen, soit le classement de ces plaintes sans aucune suite, soit la transmission au procureur général qui serait alors tenu, si c'était le cas, de saisir la commission d'instruction, qui agira finalement comme un juge d'instruction.
Mmh. Elle vise qui, ces plaintes ? Des politiques, des directeurs d'EHPAD, qui est visé par ces plaintes aujourd'hui ?
Alors, les plaintes visent par définition, comme c'est la Cour de justice de la République, des membres du gouvernement, puisque les plaintes ont pour objet de reprocher aux membres du gouvernement des infractions commises dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
Et quels sont les membres qui sont visés ?
Alors, le plus souvent, c'est effectivement le Premier ministre, les deux ministres de la Santé qui sont succédés, la ministre de la Justice, la ministre du Travail, le ministre de l'Intérieur, et c'est des plaintes qui peuvent émaner d'horizons très différents, puisque ça peut venir du simple particulier, ça peut venir de syndicats, ça peut venir de syndicats ou d'associations de médecins. On trouve un peu tous les cas de figure, avec des plaintes qui peuvent être des plaintes en une page, qui sont absolument pas motivées, ou des plaintes beaucoup plus fouillées et plus référencées d'une vingtaine de pages. Donc on a vraiment toutes les situations. Donc c'est effectivement le travail qui sera celui de la commission des requêtes, de filtrer et de dire... qu'est-ce qui doit recevoir une suite dans toutes ces plaintes déposées ?
Et ça veut dire que l'acte 2 du coronavirus pourrait être un long feuilleton judiciaire ?
en fonction de ce que décidera la commission des requêtes. Mmh. Ça fait partie des options, des deux options qui lui appartiennent, soit classer sans suite, soit me saisir pour que je sois, puisque je serai à leur tenue de le faire, pour que je saisisse la commission d'instruction qui, à ce moment-là, investiguerait sur les plaintes déposées.
Et là, alors, il pourrait y avoir plus tard des procès, donc si jamais ça va au bout, c'est ça?
Pour ça, on n'en est pas là, hein. C'est des processus longs et complexes.
Mmh. Je voudrais qu'on revienne juste d'un mot sur les avocats qu'on évoquait au début de cet entretien. Si on en croit une enquête du Conseil national des barreaux récente, plus d'un avocat sur quatre pense à changer de métier. Alors c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de problèmes avec la réforme des retraites, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu beaucoup travailler là, c'est vrai que beaucoup ont du mal à gagner leur vie. Est-ce que le sort des avocats vous inquiète, vous ?
Oui. Moi, il m'inquiète parce que c'est une profession dont on a besoin, qui est essentielle au fonctionnement de la justice. Quand j'étais jeune magistrat, moi, j'avais des collègues plus âgés qui disaient toujours, qui citaient toujours un dicton, qui en fait dit « il n'y a pas de bons magistrats sans bons avocats ». Donc la bonne justice, elle est aussi fondée sur la qualité de la défense. Donc je pense qu'il y a un problème majeur aujourd'hui à régler les problèmes de cette profession pour mieux la préserver, mieux la protéger, en adoptant un certain nombre de mesures structurelles. Je pense que ça peut pas se régler de façon indemnitaire ou avec de l'argent. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur un modèle économique qui, à mon avis, est à bout de souffle.
Ça veut dire quoi ? Qu'il y a trop d'avocats et qu'ils peuvent pas gagner leur vie aujourd'hui ?
Oui, je pense qu'il y a certainement trop d'avocats qui gagnent pas suffisamment bien leur vie. Et il faut agir, et il peut y avoir plusieurs leviers, hein, c'est pas à moi à décider lesquels. Mais je pense qu'il faut absolument faire quelque chose pour cette profession.
Est-ce que, par exemple, mettre un numerus clausus comme on a connu dans les concours de médecine, ça peut être une piste sérieuse ?
Ça peut être une des pistes, le numerus clausus. Il peut y avoir des réflexions sur l'office de l'avocat, sur effectivement le retravail sur l'acte d'avocat et son utilisation et la portée qu'il doit avoir. Ça peut être l'accès à certains fichiers. Ça peut être là aussi le fait de revisiter le modèle économique de la profession, dans la mesure où vous avez des avocats qui gagnent très très bien leur vie et puis des milliers d'avocats qui sont au niveau du SMIC. Tout ça, effectivement, je pense, doit être fait avec un objectif en ligne, une ligne de mire qui doit être effectivement d'assurer des revenus qui soient dignes et qui permettent surtout d'assurer une défense de qualité. C'est ça, moi, je dirais, ce qui devrait être le maître mot dans tout ça, dans un monde où le droit se complexifie de plus en plus et où la profession doit vraiment, j'allais dire, satisfaire à cette exigence de qualité et satisfaire à ces exigences de formation continue.
Merci beaucoup, François Molins, d'avoir été en direct avec nous ce soir dans RTL Soir. Merci à vous et bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Dans un instant, c'est l'œil d'Andréa Bescon dans RTL Soir.
Thomas Soto, RTL Soir.